Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Georgia Marlouf, écrivaine, auteure du livre Le goût du Liban, paru au Mercure de France. Alors j'aimerais qu'on évoque la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth. C'était il y a 2 ans. Comment avez-vous vécu cette terrible journée?
Alors pour tout vous dire, Loïc, en réalité, moi j'étais à Beyrouth et j'en suis partie l'avant-veille de cette terrible explosion. Bon, j'ai la chance d'habiter un appartement qui se trouve malheureusement dans une relative proximité au lieu de l'explosion. Et c'est un appartement du début du siècle dernier dans lequel il y a un magnifique vitrail en verre coloré qui est caractéristique des maisons anciennes. Et ce vitrail, selon la lumière et les saisons, habille mon salon de motifs assez incroyables, abstraits ou figuratifs d'ailleurs, et je le photographie sans cesse. Et le jour de mon départ, j'ai fait des photos et je les ai envoyées à un groupe d'amis en leur disant « cadeau d'adieu de ma maison ». Et je ne sais pas pourquoi j'ai écrit « cadeau d'adieu de ma maison ». Et voilà, donc comme si j'avais une espèce de prémonition. Voilà, et puis 2 jours après, ce terrible après-midi, en fait, je reçois de mon fils d'ailleurs une première information disant qu'il y a un incendie sur le port de Beyrouth. Alors au début, je ne m'inquiète pas énormément, et puis en fait, je suis bombardée de messages, et je réalise, mais ça a été très progressif l'ampleur de cette horreur, quoi, de cette explosion quasi atomique. Alors évidemment, comment ça se passe? Ça se passe que on échange des messages, mais sans cesse, et on reçoit des messages sans cesse, on se tranquillise sur sa famille, ses plus proches, ses voisins, et puis après on élargit le cercle, et puis on apprend des nouvelles absolument terrifiantes sur le nombre des victimes, sur le nombre des blessés. Et il se trouve que j'ai 2 amis, mais vraiment très proches, qui ont l'un perdu un œil et l'autre qui a été, mais c'est entre autres, hein, c'est un exemple parmi malheureusement tant d'autres, une autre amie qui a eu de multiples fractures le long de ses bras, tous ses doigts ont été cassés, enfin des amis très proches qui ont vécu des choses terrifiantes. Et puis petit à petit, on apprend que, et encore ici et encore là, et voilà, c'est une espèce d'avalanche, voilà, c'est comme une avalanche. De mauvaises nouvelles et de choses absolument terrifiantes qui nous laissent tétaniser. Voilà, c'est tout. Je peux pas dire autre chose que ça. Et puis, une de mes amies, quelques jours après, m'a renvoyé cette photo terrible que j'avais envoyée avec cette légende, cadeau d'adieu, comme s'il y avait quelque chose de prémonitoire. Voilà.
Et cet appartement a été endommagé?
Oui, bien sûr, il a été, bien sûr. Je n'en parle pas parce que ça paraît tellement indécent de parler de biens matériels qui sont perdus. En fait, j'ai été alertée parce que une de mes amies m'a envoyé d'abord une vidéo. Vous savez, dans ce quartier dans lequel est mon appartement est un quartier qui a gardé un cachet relativement traditionnel. Et souvent, des couples qui vont se marier ont pris l'habitude de venir faire des photos de leur mariage ou de leur juste avant la cérémonie, ou des vidéos dans le quartier. Et il y a une vidéo qui a ensuite beaucoup circulé d'une jeune femme en habit de mariée qui est quasiment en dessous de mes fenêtres et qui est en train de poser pour un vidéaste. Et puis au moment où arrive cette explosion, et la mariée part en l'air comme si elle s'envolait, mais en fait c'est le souffle de l'explosion qui l'emporte, et heureusement elle n'a que des blessures. Et donc cette amie m'a envoyé cette vidéo en me disant: c'est en dessous de chez toi, elle avait reconnu, est-ce que ton appartement est détruit? À ce moment-là, je ne le savais même pas encore, parce que je ne me préoccupais pas de mon appartement face à l'ampleur et puis c'est le soir plus tard que le gardien de l'immeuble m'a envoyé d'ailleurs une vidéo qu'il a fait avec son téléphone pour m'informer des dégâts qu'il y a eu chez moi et qui ont été absolument terrifiants. Et ce fameux vitrail a été brisé et je me suis vraiment jurée de le reconstruire à l'identique, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais ça a été un long chemin, voilà.
Alors, le 4 août, pour vous, Georgia Marlouf, c'est le symbole de l'effondrement du Liban, son point culminant?
Loïc, j'aurais bien aimé penser que c'est son point culminant, c'est-à-dire que quand on a atteint le point culminant, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas être pires après. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Donc je ne sais pas si on peut dire. Alors effectivement, c'est un événement majeur. Je veux dire, c'est une date qu'on n'oubliera pas et qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, ce port et ces fameux silos dont on parle beaucoup, parce qu'ils ont explosé aussi, mais seulement en partie, et le pan qui n'a pas explosé a protégé du souffle une partie de Beyrouth, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants sinon. Et comme si ces silos se rappelaient régulièrement à notre souvenir, parce qu'ils s'enflamment à intervalles réguliers, comme s'il s'agissait de nous dire surtout n'oubliez pas. Malheureusement, quand on parle de point culminant, c'est-à-dire que après les choses ne peuvent pas aller plus mal et s'améliorent, on va dire. Or, ce n'est pas le cas puisque la situation a continué à se détériorer. Mais en effet, cette explosion quasi atomique qui a emporté une partie de la ville, qui a emporté le port et tous les quartiers avoisinants, c'est effectivement un traumatisme inoubliable. Et qu'il ne faudra pas oublier, bien sûr. Les Libanais ont malheureusement parfois la mémoire courte, mais là, je crois que c'est impossible d'oublier. Des choses absolument terribles. Donc, certainement, c'est d'une gravité inoubliable, certainement. C'est une longue chaîne de corruption, d'incompétence, de cynisme, de négligence qui aboutit à ce désastre. Donc, certainement, c'est un point de non-retour, quelque part. Mais malheureusement, à la fois l'enquête piétine, à la fois pas un responsable politique n'a démissionné, alors que dans n'importe quelle démocratie, pour beaucoup moins que ça, il y aurait eu des démissions en chaîne. Et là, rien de majeur ne s'est passé. Alors, il y a bien il y a un groupe d'avocats qui se sont réunis autour du bâtonnier et qui continuent à accumuler des preuves, à avancer dans l'enquête. Alors c'est très difficile parce que beaucoup de preuves ont été éliminées. Il y a des activistes, bien sûr, qui continuent à aider les gens à reconstruire leur maison. Il y a eu beaucoup de reconstructions qui ont été faites par la société civile, par des ONG, par des dons qui sont venus de l'étranger. Donc il y a des choses qui continuent à aller de l'avant, mais effectivement, je crois que c'est un traumatisme majeur, oui, majeur, vraiment dans l'histoire et dans notre histoire personnelle.
Alors, Georgia Marlouf, le Liban vit une crise économique sans précédent. Il est difficile d'avoir de l'électricité, du pain, des médicaments. Vous ressentez de la colère, de la tristesse, de l'impuissance ?
Alors, un peu tout ça, Loïc, parce que certainement de la colère, encore une fois, quant à l'immobilisme, si vous voulez, de cette classe politique, c'est le jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». En fait, s'il y en a un qui coule, il entraînerait tous les autres à sa suite. Et c'est pour ça qu'ils se tiennent les coudes, quoi. C'est absolument terrifiant qu'on n'ait toujours pas de gouvernement en ce moment. Cela dit, il y a quand même des signes d'espoir, parce qu'aux dernières élections, il y a une douzaine de députés issus de la contestation, des députés indépendants qui sont entrés au Parlement. Alors c'est rien, mais c'est pas rien. C'est une petite avancée quand même. Et voilà, donc il y a quand même de l'espoir. Il y a le courage incroyable de cette société civile, des gens dans le domaine de la culture, de l'architecture, et même des entreprises qui continuent à se créer, etc. Il y a des signes d'espoir, mais il y a certainement une immense colère, un immense désespoir, un immense dégoût aussi en même temps.
Récemment, la librairie Antoine, qui était située dans les souks de Beyrouth depuis 2009, a fermé définitivement ses portes en raison de la crise économique, comme d'autres commerces du centre-ville. Même si les 12 autres librairies Antoine sont toujours là, c'est un mauvais signe pour l'écrivaine que vous êtes, Georgia Marlouf.
Alors, il est vrai, Loïc, que la librairie qui a fermé se situe dans les vieux souks de Beyrouth. Et en fait, la première librairie Antoine qui a ouvert ses portes en 1933 était située à peu près dans ce quartier. Donc, ce n'est pas la librairie d'origine, mais elle est pratiquement dans le même quartier. C'était une perpétuation de cette mission d'origine, je dirais. Et donc, les librairies Antoine, c'est effectivement un des lieux de la culture au Liban, certainement. Alors, bien sûr, c'est une très, très grande tristesse. Mais c'est vrai que toute cette zone de Beyrouth est assez morte maintenant parce que la crise économique fait en sorte que les gens n'ont plus les moyens d'aller et de s'acheter des vêtements et tout, mais bien sûr des livres. Et je ne parle pas des gens les plus pauvres, je parle même de mes amis qui me demandent de leur ramener des livres, de leur prêter mes livres que j'ai lus, etc. Donc ça atteint, c'est vraiment une crise qui est absolument terrifiante. Alors, bien sûr que c'est très triste, parce que le réseau des librairies Antoine et de toutes les librairies au Liban étaient vraiment des lieux de culture, de rencontres, de signatures, de livres, de petits événements culturels qui ont leur importance. Donc c'est vraiment très 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 inquiétant que les gens n'aient plus du tout les moyens d'acheter des livres. Il va falloir trouver des solutions. Alors heureusement qu'il y a des réseaux de bibliothèques publiques qui continuent à se battre pour augmenter leur fonds de livres, qui reçoivent d'ailleurs des livres en don. C'est le réseau, par exemple, des bibliothèques Assabine. C'est une ONG qui continue à beaucoup travailler, avec laquelle je collabore d'ailleurs. Et donc, il y a quand même encore un accès aux livres, mais certainement, cette fermeture est un mauvais signe. D'ailleurs, elle s'est accompagnée d'une espèce d'événement culturel avec une lecture, de la musique et même une mise en scène un petit peu avec une femme de théâtre qui s'appelle Lina Abiat, qui est très active. Donc c'était quand même pour dire que c'était pas une fermeture banale, certainement.
Dernière question, Georgia Mahlouf. Dans votre livre, Le goût du Liban, paru au Mercure de France en octobre 2021, vous avez choisi une photo du port de Beyrouth avant l'explosion. Pour quelle raison ?
Alors, la sortie de ce livre, ça pouvait paraître une folie, parce que ça s'appelle Le goût du Liban, c'est dans cette fameuse collection du Mercure. Alors, c'était un geste à la fois d'espoir, de foi en l'avenir, et puis d'hommage aussi à ce pays où il y a des écrivains, puisque la collection donne la voix à des écrivains de tous horizons qui ont produit des textes formidables et qu'il fallait les mettre en lumière. Et puis c'était aussi de dire que la littérature est encore un des meilleurs moyens de découvrir un pays, de découvrir ses richesses. Donc voilà, alors effectivement le choix de la photo de couverture était important. C'était pour dire, comme le dit un très beau poème de Georges Sehadeh, notre grand poète libanais, « L'étoile reviendra sur le jardin détruit ». C'était une façon de donner de l'écho à ces lignes d'espoir.
Merci Georgia Mahlouf. Je rappelle que vous avez publié Le goût du Liban, paru au Mercure de France. Merci d'avoir été l'invité de rencontre à l'occasion du 2e anniversaire de la double explosion au port de Beyrouth. Merci.